Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération.
Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, François Perrier lit « Les lettres de mon moulin » d'Alphonse Daudet.
Je dois énormément de moments merveilleux. Les premières émotions que j'ai ressenties par la lecture viennent très probablement de cet écrivain. De cet écrivain dont j'ai appris d'ailleurs beaucoup plus tard qu'il avait eu une très grave maladie, qu'on avait dû lui soigner cette maladie par la morphine et qu'il en était resté morphinomane. Ça semble un peu paradoxal étant donné la douceur, la sensibilité qui baigne son œuvre. La mort du dauphin. Le petit dauphin est malade. Le petit dauphin va mourir. Dans toutes les églises du royaume, le Saint-Sacrement demeure exposé nuit et jour, et de grands cierges brûlent pour la guérison de l'enfant royal. Les rues de la vieille résidence sont tristes et silencieuses, les cloches ne sonnent plus, les voitures vont au pas. Aux abords du palais, les bourgeois curieux regardent à travers les grilles des Suisses à bedaines dorées qui causent dans les cours d'un air important. Tout le château est en émoi. Des chambellans, des majordomes montent et descendent en courant les escaliers de marbre. Les galeries sont pleines de pages et de courtisans en habits de soie qui vont d'un groupe à l'autre quêter des nouvelles à voix basse. Sur les larges perrons, les dames d'honneur éplorées se font de grandes révérences en essuyant leurs yeux avec de jolis mouchoirs brodés. Dans l'orangerie, il y a nombreuses assemblées de médecins en robe. On les voit à travers les vitres, agiter leurs longues manches noires et incliner doctoralement leurs perruques à marteau. Le gouverneur et l'écuyer du petit dauphin se promènent devant la porte, attendant les décisions de la faculté. Des marmitons passent à côté d'eux sans les saluer. Monsieur l'écuyer jure comme un païen, monsieur le gouverneur récite des vers d'Horace. Et pendant ce temps-là, là-bas, du côté des écuries, on entend un long hennissement plaintif. C'est l'alzan du petit dauphin que les palefreniers oublient et qui appelle tristement devant sa mangeoire vide. Et le roi ? Où est monseigneur le roi ? Le roi s'est enfermé tout seul dans une chambre au bout du château. Les majestés n'aiment pas qu'on les voie pleurer. Pour la reine, c'est autre chose. Assise au chevet du petit dauphin, elle a son beau visage baigné de larmes et sanglote bien haut devant tous, comme ferait une drapière. Dans sa couchette de dentelle, le petit dauphin, plus blanc que les coussins sur lesquels il est étendu, repose, les yeux fermés. On croit qu'il dort, mais non. Le petit dauphin ne dort pas. Il se retourne vers sa mère et voyant qu'elle pleure, il lui dit « Madame la reine, pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous croyez bonnement que je m'en vais mourir ?» La reine veut répondre, les sanglots l'empêchent de parler. Ne pleurez donc pas, madame la reine. Vous oubliez que je suis le dauphin et que les dauphins ne peuvent pas mourir ainsi. La reine sanglote encore plus fort et le petit dauphin commence à s'effrayer. Oh là, dit-il, je ne veux pas que la mort vienne me prendre et je saurais bien l'empêcher d'arriver jusqu'ici. Qu'on fasse venir sur l'heure 40 lansquenets très forts pour monter la garde autour de notre lit. que 100 gros canons veillent nuit et jour, mèche allumée, sous nos fenêtres, et malheur à la mort, si elle ose s'approcher de nous. Pour complaire à l'enfant royal, la reine fait un signe. Sur l'heure, on entend les gros canons qui roulent dans la cour, et 40 grands lansquenets, la pertuisane au poing, viennent se ranger autour de la chambre. Ce sont de vieux soudards à moustaches grises. Le petit dauphin bat des mains en les voyant. Il en reconnaît un, il appelle « Lorrain ! Lorrain !» Le soudard fait un pas vers le lit. « Je t'aime bien, mon vieux Lorrain. Fais voir un peu ton grand sabre. Si la mort veut me prendre, il faudra la tuer, n'est-ce pas ?» Lorrain répond « Oui, monseigneur. » Et il a deux grosses larmes qui coulent sur ses joues tannées. À ce moment, l'aumônier s'approche du petit dauphin et lui parle longtemps à voix basse en lui montrant un crucifix. Le petit dauphin l'écoute d'un air fort étonné, puis tout à coup l'interrompt. « Je comprends bien ce que vous me dites, monsieur l'abbé, mais enfin, est-ce que mon petit ami Beppo ne pourrait pas mourir à ma place en lui donnant beaucoup d'argent ?» L'aumônier continue à lui parler à voix basse, et le petit dauphin a l'air de plus en plus étonné. Quand l'aumônier a fini, le petit dauphin reprend avec un gros soupir. « Tout ce que vous me dites là est bien triste, monsieur l'abbé. Mais une chose me console, c'est que là-haut, dans le paradis des étoiles, je vais être encore le dauphin. Je sais que le bon Dieu est mon cousin et ne peut pas manquer de me traiter selon mon rang. » Puis il ajoute en se tournant vers sa mère, « Qu'on m'apporte mes plus beaux habits, mon pourpoint d'hermine blanche et mes escarpins de velours. Je veux me faire brave pour les anges et entrer au paradis en costume de dauphin. » Une troisième fois, l'aumônier se penche vers le petit dauphin et lui parle longuement à voix basse. Au milieu de son discours, l'enfant royal l'interrompt avec colère. « Mais alors, crie-t-il, d'être dauphin, ce n'est rien du tout !» Et sans vouloir plus rien entendre, le petit dauphin se tourne vers la muraille et il pleure amèrement.
François Perrier, vous avez choisi de lire quelques lettres de Mon Moulin, d'Alphonse Daudet, quand je vous ai demandé quel était le livre de votre enfance.
Ce n'est pas le seul livre de mon enfance, mais effectivement, dans ma mémoire, c'est certainement une des choses qui m'est restée. Mais chose curieuse, ça n'est pas tellement le souvenir d'une lecture, mais d'une lecture en lisant à haute voix.
Et c'est vous qui lisiez ou...
Et c'est moi qui lisais. Oui, c'était des circonstances un peu particulières. Ma mère, non seulement avait la charge de 3 enfants, mais en plus tenait une boutique et avait donc énormément de besogne. Et quand je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs sous sa surveillance, mais elle ne pouvait pas y attacher beaucoup d'importance, elle me surveillait beaucoup. Et puis, de temps en temps, quand je lui parlais d'un texte que j'avais entendu, elle me disait « Ah ben, peux-tu me le lire ?» Et ce sont des lectures que j'ai faites à ma mère. Selon mes goûts, et je devais avoir, je sortais enfin vraiment de l'enfance et je commençais à savoir à peu près lire. Je me souviens, ma mère aimait beaucoup Daudet et personnellement j'y prenais aussi un très grand plaisir. J'étais très sensible à une curieuse façon de s'exprimer, à la sensibilité de Daudet. Elle a l'espèce de tendresse qui flotte sur lui et que je ne crois pas qu'on doit confondre avec de la sensiblerie. Ce sont des textes que je n'ai jamais lus ou relus sans être ému. J'aimais trouver dans un livre des émotions que je ne ressentais pas dans la vie puisque j'avais une destinée parfaitement heureuse, enfin, avec simplement des soucis de mon âge, mais qui était sans gravité. Je n'ai pas eu de grands drames dans ma vie, dans ma vie de petit garçon. Et au fond, je recherchais l'émotion et la tendresse à travers les auteurs.
Est-ce que vous vous souveniez des lieux où vous lisiez ?
Je lisais donc dans l'arrière-boutique, parce que toute ma vie a été dans cet endroit assez étrange, qui est une boutique, un commerce, qui s'accompagne d'ailleurs de choses assez formidables pour un petit garçon.
Vous pouvez décrire un petit peu l'atmosphère de cette boutique? Qu'est-ce qu'on y vendait?
On y vendait du vin emporté. Ça s'appelait les caves du Viaduc. C'était au 159 de l'avenue de Versailles. Et la boutique existe toujours. Elle a changé de maintenant c'est une papeterie. Et j'y suis retourné. C'est difficile de retrouver exactement l'atmosphère qu'il y avait.
Est-ce que votre mère vous racontait, elle, des histoires?
C'est-à-dire qu'avant que je ne sache lire, elle n'était pas encore dans cette boutique. Nous vivions dans un appartement, et là, j'ai connu la vie des enfants qui vivent dans des appartements, et c'est elle-même qui a guidé ma première lecture, parce que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire. Et pour moi, la lecture est toujours associée à une lecture à haute voix. J'ai toujours, est-ce que ma carrière de comédien est venue de là? C'est peut-être pas impossible. Mais j'ai très vite senti le pouvoir sur un auditoire lorsqu'on lit. Et puis après, lorsqu'on joue. Donc très vite, quand j'avais lu quelque chose qui me passionnait, qui m'intéressait, où je trouvais un beau texte, je me dépêchais de venir le lire à ma mère, et plus tard après à ma sœur, en qui j'avais deux auditrices ferventes et fidèles, parce que j'éprouvais déjà le besoin, d'une petite représentation. Les vieux. Une lettre, Père Azan?
Oui, monsieur. Ça vient de Paris. Il était tout fier que ça vint de Paris, ce brave Père Azan. Pas moi. Quelque chose me disait que cette Parisienne de la rue Jean-Jacques, tombant sur ma table à l'improviste et de si grand matin, allait me faire perdre toute ma journée. Je ne me trompais pas, voyez plutôt. Il faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour un jour et t'en aller tout de suite à Aiguières. Aiguières est un gros bourg à 3 ou 4 lieues de chez toi, une promenade. En arrivant, tu demanderas le couvent des orphelines. La première maison après le couvent est une maison basse à volets gris avec un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper, la porte est toujours ouverte. Et en entrant, tu crieras bien fort « Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice ». Alors tu verras deux petits vieux, oh mais vieux, vieux, archivieux, te tendre les bras du fond de leur grand fauteuil et tu les embrasseras de ma part avec tout ton cœur, comme s'ils étaient à toi. Puis vous causerez. Ils te parleront de moi, rien que de moi. Ils te raconteront 1000 folies que tu écouteras sans rire. Tu ne riras pas, hein? Ce sont mes grands-parents, deux êtres dont je suis toute la vie et qui ne m'ont pas vu depuis 10 ans. 10 ans, c'est long, mais que veux-tu, moi, Paris me tient. Eux, c'est le grand âge. Ils sont si vieux. S'ils venaient me voir, ils se casseraient en route. Heureusement, tu es là-bas, mon cher meunier, et en t'embrassant, les pauvres gens croiront m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de nous, de cette bonne amitié dont le diable soit de l'amitié. Justement, ce matin-là, il faisait un temps admirable, mais qui ne valait rien pour courir les routes. Trop de mistral et trop de soleil, une vraie journée de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, j'avais déjà choisi mon cagnard, abri, entre deux roches, et je rêvais de rester là tout le jour comme un lézard, à boire de la lumière en écoutant chanter les pins. Enfin, que voulez-vous faire? Je fermais le moulin en maugréant, je mis la clé sous la chatière, mon bâton, ma pipe, et me voilà parti. J'arrivais à Aiguières vers 2 heures. Le village était désert. Tout le monde au champ. Dans les ormes du cours blanc de poussière, les cigales chantaient comme en pleine croc. Il y avait bien sur la place de la mairie un âne qui prenait le soleil, un vol de pigeons sur la fontaine de l'église, mais personne pour m'indiquer l'orphelinat. Par bonheur, une vieille femme apparut tout à coup accroupie et filant dans l'encoignure de sa porte. Je lui dis ce que je cherchais et, comme cette fée était très puissante, elle n'eut qu'à lever sa quenouille. Aussitôt, le couvent des orphelines se dressa devant moi comme par magie. C'était une grande maison maussade et noire, toute fière de montrer au-dessus de son portail en ogive une vieille croix de grès rouge avec un peu de latin autour. À côté de cette maison, j'en aperçus une autre, plus petite, des volets gris, le jardin derrière, je la reconnus tout de suite, et j'entrai sans frapper. Je reverrai toute ma vie ce long corridor frais et calme, la muraille peinte en rose, le jardinet qui tremblait au fond à travers un store de couleur claire, et sur tous les panneaux des fleurs et des violons fanés. Il me semblait que j'arrivais chez quelques vieux baillis du temps de Sedaine. Au bout du couloir, sur la gauche, par une porte entrouverte, on entendait le tic-tac d'une grosse horloge et une voix d'enfant, mais d'enfant à l'école, qui lisait en s'arrêtant à chaque syllabe. « Alors, sainte Irénée s'écria, je suis le froment du Seigneur, il faut que je sois moulu par la dent de ces animaux. » Je m'approchai doucement de cette porte et je regardai. Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un bon vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses genoux. À ses pieds, une fillette habillée de bleu, grande pèlerine et petit béguin, le costume des orphelines, lisait la vie de Saint Irénée dans un livre plus gros qu'elle. Cette lecture miraculeuse avait opéré sur toute la maison. Le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canaris dans leur cage, là-bas, sur la fenêtre. La grosse horloge ronflait, tic-tac, tic-tac. Il n'y avait d'éveillé dans toute la chambre qu'une grande bande de lumière qui tombait droite et blanche entre les volets clos, pleine d'étincelles vivantes et de valses microscopiques. Au milieu de l'assoupissement général, l'enfant continuait sa lecture d'un air grave. Aussitôt, deux lions se précipitèrent sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrai. Les lions de Saint-Irénée se précipitant dans la chambre n'y auraient pas produit plus de stupeur que moi. Un vrai coup de théâtre. La petite pousse un cri, le gros livre tombe, les canaris, les mouches se réveillent, la pendule sonne, le vieux se dresse en sursaut tout effaré et moi-même un peu troublé, je m'arrête sur le seuil en criant bien fort « Bonjour braves gens, je suis l'ami de Maurice. » Alors, si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, si vous l'aviez vu venir vers moi les bras tendus, m'embrasser, me serrer les mains, courir égaré dans la chambre, en faisant « mon Dieu », toutes les rides de son visage riaient, il était rouge, il bégayait. « oh, monsieur !» Puis il allait vers le fond en appelant « Mamette !» Une porte qui s'ouvre, un trot de souris dans le couloir, c'était Mamette. Rien de joli comme cette petite vieille, avec son bonnet à coque, sa robe carmélite et son mouchoir brodé qu'elle tenait à la main pour me faire honneur à l'ancienne mode. Chose attendrissante, ils se ressemblaient. Avec un tour et des coques jaunes, il aurait pu s'appeler Mamette lui aussi. Seulement la vraie Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie, et elle était encore plus ridée que l'autre. Comme l'autre aussi, elle avait près d'elle une enfant de l'orphelinat, petite garde en pèlerine bleue, qui ne la quittait jamais. Et de voir ces vieillards protégés par ces orphelines, c'était ce qu'on peut imaginer de plus touchant. En entrant, Mamette avait commencé par me faire une grande révérence, mais d'un mot, le vieux lui coupa sa révérence en deux. « C'est l'ami de Maurice. » Aussitôt, la voilà qui tremble, qui pleure, perd son mouchoir, qui devient rouge, toute rouge, encore plus rouge que lui. Ces vieux, ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines, et à la moindre émotion, elle leur saute au visage. « Vite, vite, une chaise !» dit la vieille à sa petite. « Ouvre les volets !» crie le vieux à la sienne.
et me prenant chacun par une main, ils m'emmenèrent en trottinant jusqu'à la fenêtre qu'on a ouverte toute grande pour mieux me voir. On approche les fauteuils, je m'installe entre les deux sur un pliant, les petites bleues derrière nous, et l'interrogatoire commence. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne vient-il pas? Est-ce qu'il est content? Et patati, et patata, comme cela, pendant des heures. Moi, je répondais de mon mieux à toutes leurs questions, donnant sur mon ami les détails que je savais, inventant effrontément ce que je ne savais pas, me gardant surtout d'avouer que je n'avais jamais remarqué si ses fenêtres fermaient bien ou de quelle couleur était le papier de sa chambre. Le papier de sa chambre, il est bleu. Madame bleu clair, avec des guirlandes, vraiment faisait la pauvre vieille attendrie. Et elle ajoutait en se tournant vers son mari, « C'est un si brave enfant. » « Oh oui, c'est un brave enfant, » reprenait l'autre avec enthousiasme. Et tout le temps que je parlais, c'était entre eux des hochements de tête, de petits rires fins, des clignements d'yeux, des airs entendus, ou bien encore le vieux qui se rapprochait pour me dire « Parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure. » Et elle, de son côté, « Un peu plus haut, je vous prie, il n'entend pas très bien. » Alors j'élevais la voix et tous deux me remerciaient d'un sourire. Et dans ces sourires fanés qui se penchaient vers moi, cherchant jusqu'au fond de mes yeux l'image de leur Maurice, moi j'étais tout ému de la retrouver, cette image, vague, voilée, presque insaisissable, comme si je voyais mon ami me sourire très loin, dans un brouillard. Tout à coup, le vieux se dresse sur son fauteuil. « Mais j'y pense, Mamette, il n'a peut-être pas déjeuné. » Et Mamette effarée, les bras au ciel, « À déjeuner, grand Dieu !» Je croyais qu'il s'agissait encore de Maurice et j'allais répondre que ce brave enfant n'attendait jamais plus tard que midi pour se mettre à table. Mais non, c'était bien de moi qu'on parlait. Et il faut voir qu'elle branle-bas quand j'avouais que j'étais encore à jeun. « Vite, vite, le couvert, petite bleue, la table au milieu de la chambre, la nappe du dimanche, les assiettes à fleurs, et ne rions pas tant, s'il vous plaît, et dépêchons-nous. » Je crois bien qu'elle se dépêchait à peine le temps de casser trois assiettes. Le déjeuner se trouva servi. « Un bon petit déjeuner, » me disait Mamette en me conduisant à table. « Seulement, vous serez tout seul. Nous autres, nous avons déjà mangé ce matin. » Ces pauvres vieux, à quelque heure qu'on les prenne, ils ont toujours mangé le matin. Le bon petit déjeuner de Mamette, c'était deux doigts de lait, des dattes et une barquette, quelque chose comme un échaudé, de quoi la nourrir elle et ses canaris au moins pendant 8 jours. Et dire qu'à moi seul, je vins à bout de toutes ces provisions. Aussi, quelle indignation autour de la table. Comme les petites bleues chuchotaient en se poussant du coude, et là-bas, au fond de leur cage, comme les canaris avaient l'air de se dire « Oh, ce monsieur qui mange toute la barquette !» Je la mangeais toute, en effet, et presque sans m'en apercevoir, occupé que j'étais à regarder autour de moi dans cette chambre claire et paisible, où flottait comme une odeur de choses anciennes. Il y avait surtout deux petits lits dont je ne pouvais pas détacher mes yeux. Ces lits, presque deux berceaux, je me les figurais le matin au petit jour, quand ils sont encore enfouis sous leurs grands rideaux à franges. 3 heures sonnent, c'est l'heure où tous les vieux se réveillent. « Tu dors, Mamette ?»« Non, mon ami. N'est-ce pas que Maurice est un brave enfant ?»« Oh oui, c'est un brave enfant. » Et j'imaginais comme cela toute une causerie, rien que pour avoir vu ces deux petits lits de vieux dressés l'un à côté de l'autre. Pendant ce temps, un drame terrible se passait à l'autre bout de la chambre devant l'armoire. Il s'agissait d'atteindre là-haut, sur le dernier rayon, certains bocaux de cerises à l'eau-de-vie qui attendaient Maurice depuis 10 ans et dont on voulait me faire l'ouverture. Malgré les supplications de Mamette, le vieux avait tenu à aller chercher ses cerises lui-même et monté sur une chaise au grand effroi de sa femme, il essayait d'arriver là-haut. Vous voyez le tableau d'ici, le vieux qui tremble et qui se hisse, les petites bleues cramponnées à sa chaise, Mamette derrière lui haletante, les bras tendus, et sur tout cela, un léger parfum de bergamote qui s'exhale de l'armoire ouverte et des grandes piles de linge roux. C'était charmant. Enfin, après bien des efforts, on parvint à le tirer de l'armoire, ce fameux bocal, et avec lui une vieille timbale d'argent toute bosselée, la timbale de Maurice, quand il était petit. On me la remplit de cerises jusqu'au bord, Maurice les aimait tant, les cerises, et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille d'un air de gourmandise, « Vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. » Hélas, sa femme les avait faites, mais elle avait oublié de les sucrer. Que voulez-vous, on devient distrait en vieillissant. Elles étaient atroces, vos cerises, ma pauvre mamette. Mais cela ne m'empêcha pas de les manger jusqu'au bout, sans sourciller. Le repas terminé, je me levai pour prendre congé de mes hôtes. Ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour causer du brave enfant, mais le jour baissait, le moulin était loin, il fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. « Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. » Bien sûr qu'au fond d'elle-même, Mamette trouvait qu'il faisait déjà un peu frais pour me conduire jusqu'à la place, mais elle n'en laissa rien paraître. Seulement, pendant qu'elle l'aidait à passer les manches de son habit, un bel habit tabac d'Espagne à boutons de nacre, j'entendais la chère créature qui lui disait doucement « Tu n'entreras pas trop tard, n'est-ce pas ?» Et lui, d'un petit air malin « Hé hé, je ne sais pas, peut-être. » Là-dessus, il se regardait en riant, et les petites bleues riaient de les voir rire, et dans leur coin, les canaris riaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait tous un peu grisées. La nuit tombait quand nous sortîmes, le grand-père et moi. La petite bleue nous suivait de loin pour le ramener, mais lui ne la voyait pas et il était tout fier de marcher à mon bras, comme un homme. Mamette rayonnante voyait cela du pas de sa porte, et elle avait en nous regardant de jolis hochements de tête qui semblaient dire « Tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. » Une des séductions d'Alphonse Daudet, pour moi en tout cas, vient en partie, je considère que c'est un très bel écrivain, mais vient en partie aussi de la découverte de l'accent méridional. C'est en effet à cause d'Alphonse Daudet que j'ai apprécié, et toute ma vie, et encore maintenant, encore qu'on ait le sentiment qu'on l'entende un peu moins qu'autrefois, mais cet accent qui apporte tellement de joie, de bonheur, et je crois que c'est certainement l'écrivain qui a le mieux, avec Pagnol bien sûr, donné ses lettres de noblesse à l'accent du Midi. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que les mots les plus grossiers, dits avec l'accent du Midi, deviennent beaucoup moins grossiers. Par exemple, je m'excuse, mais le mot « couillon », là, au fond, c'est pas très grave. Si on entend quelqu'un dire « couillon », ben, c'est pas grave. Alors que c'est quand même désagréable si on le dit sans accent.
Première lecture, lecture d'enfance. Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet par François Perrier. Jean-Pierre Juncker, Bruno Roncière, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau.
L'émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.